France Musique.
8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Et à 8h30, nous sommes avec un pianiste qui depuis un an est, comment dire, le plus recherché, le plus convoité, le plus désiré des pianistes français depuis qu'il a remporté le Grand Prix, la médaille d'or du concours de Tchaïkovski. Il avait 22 ans, il en a 23 aujourd'hui. Bonjour Alexandre Kantorov.
Bonjour.
Un nouveau disque Brahms Liszt Bartok, il vient de paraître chez Ibis Records. Disque stupéfiant, prodigieux, captivant, un choix France Musique. Alors c'est pas moi qui le dis tout seul, Émilie et Rodolphe l'ont déjà dit à ce micro, choc Classica, un diapason d'or. Dans Diapason, par exemple, Bertrand Boissard écrit à propos de la deuxième sonate de Brahms que vous avez enregistrée, malgré Richter, malgré Katchen, malgré Peter Russell. On ne connaît de cette œuvre si difficile à unifier aucune version qui mêle à ce degré-là la perfection, l'intensité expressive et la bravoure. Quand on a des éloges comme ça et qu'on a 23 ans, comment on fait pour ne pas prendre le melon?
Je sais que dans mon cas, en tout cas, c'est pas si difficile parce que à part les moments où je suis sur scène et au piano en concert où là, j'ai l'impression que, on va dire le temps s'arrête et j'ai une sorte de, je sais pas, confiance qui vient avec de l'adrénaline et qui me fait un peu oublier tout ce qui est autour de moi et me permet de me connecter émotionnellement et de tout donner. En fait, la plupart du temps en répétition, je suis tout l'inverse. Je suis très frustré. J'ai l'impression que j'y arrive pas, que ce que j'ai dans la tête fonctionne pas sur le piano. Et je passe énormément de temps en fait à me battre en fait contre les éléments. J'ai l'impression jusqu'au moment du concert où là j'arrive curieusement à apprécier en fait le moment et à me sentir bien en fait ensuite.
Donc ça permet de garder les pieds sur terre.
J'imagine.
Vous avez l'impression d'être devenu une star, ou ça n'a pas de sens dans le classique pour vous? Il n'y a qu'une star, ou que deux, trois, Argerich et d'autres?
C'est difficile de se voir évoluer et devenir, entre guillemets, une star, parce que, de mon point de vue, il n'y a pas grand-chose qui a changé véritablement. Du jour au lendemain, après le concours, pour beaucoup, c'était en tout cas mon découvert là où beaucoup d'organisateurs ont entendu le concert, donc c'est vrai que c'est un coup de projecteur immense.
Vous avez vu que vous avez beaucoup plus de concerts qu'avant.
Oui, voilà, exactement. Et en même temps, je dirais que quand même, il n'y a pas tant de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses en surface qui ont changé. Je dois m'organiser deux fois plus qu'avant, alors que c'est vraiment pas mon fort. Le temps est beaucoup plus précieux et je dois beaucoup mieux le compartimenter. Et il y a des moments bien plus intenses qu'avant. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même un peu de la superficie et qu'au final, ce qui me tenait, activement dans la musique, qui est quand même à la base, je sais pas, une sorte de peut-être plaisir égoïste mais émotionnel en tout cas que j'ai sur scène et combiné avec j'essaye d'avoir une vie riche à côté, j'ai l'impression que cet équilibre reste en tout cas pour l'instant le même quoi.
Allez, place à la musique, place à l'émotion. Dans ce disque Brahms Liszt Bartok, il y a notamment cette deuxième sonate qui est en fait la première, qui est un peu la clé du jeune Brahms qui le fait rencontrer le couple Schumann. Voici le Scherzo. Thank you. le scherzo de la deuxième sonate de Johannes Brahms, Alexandre Kantorov au piano, notre invité jusqu'à 9h, un disque sorti chez Bis Records, c'est d'ailleurs votre maison de disques depuis le début, j'imagine que vous avez eu aussi des grands majors qui vous ont fait des appels du pied, coucou, non, vous êtes resté fidèle à votre maison de disques des débuts, Alexandre Kantorov.
Oui, ça me... disons que ça... Moi, déjà, la confiance qu'ils m'ont accordée bien avant le concours est vraiment précieuse et ils ont aussi vraiment, ils m'ont donné carte blanche dès le début, ce qui est pour moi la chose la plus importante et la plus belle qu'on puisse m'offrir, en tout cas par rapport à une maison de disques. Et j'avais pas envie, même si c'est peut-être avec des grosses majors, j'aurais pu avoir peut-être ça, on sait jamais, mais j'avais pas envie de risquer de perdre quelque chose d'aussi précieux.
Et la puis, liberté.
Exactement, liberté de programme et liberté de temps aussi, de pouvoir les sortir quand j'ai envie et de pouvoir faire une grande pause, de pouvoir avoir des idées de programme, d'orchestre, de gens, et c'est vraiment quelque chose de précieux. Et puis aussi, maintenant on commence à se connaître humainement aussi, beaucoup avec Robert Van Bar, qui est le directeur de la maison de disques, et on a vécu pas mal de moments ensemble, et donc je sais pas, c'est avec autant de changements ensuite qui sont venus après le concours, il y avait des choses que j'avais quand même envie de garder une sorte de base solide autour de moi.
Et peut-être creuser ce sillon autour de Brahms, on sent quand on lit des interviews, quand on voit aussi les concerts que vous donnez, hein. Ce sera par exemple à Marseille dans quelques jours à La Criée, et puis lundi prochain Salle Poirel à Nancy, vous allez jouer Brahms, vous l'aimez, vous continuez, et vous êtes, même quand vous écoutez ici ce disque, vous êtes étonné par ce que vous jouez.
Ouais, parce que alors c'est là mes prochaines idées de programme, et elles sont vraiment tournées autour des trois sonates et de créer des et de les mettre en valeur avec d'autres œuvres, parce qu'elles sont toutes les trois assez spéciales et assez différentes, et non, ça m'en finit pas d'être étonné par comment un compositeur qu'on qualifie vraiment de conservateur, de tourner vers le passé, jeune, est aussi fou, aussi avant-gardiste que le serait Liszt ou le serait d'autres compositeurs qu'on considère vraiment comme ceux qui ont poussé la musique dans l'avant. Là, par exemple, là dans le scherzo, ce cluster de deux notes, c'est juste fou. Même le fait que tout le motif qu'on entend, en fait, c'est juste une variation du mouvement l'ange qui vient juste avant, ce qui est quasiment aussi jamais vu, de créer tout un mouvement entier, entièrement connecté, sans aucune transition avec le mouvement d'avant. Donc il y a vraiment une sorte de passion, et on sent un jeune homme ambitieux. Alors, ça me plaît.
Un jeune homme d'ailleurs qui est à peu près votre âge, quelque chose que vous avez en tête quand quand vous jouez cette sonate.
C'est dur de s'imaginer qu'il a mon âge, mais oui, c'est un peu exactement, c'est vraiment autour de ses débuts, des vingtaine d'années, je dirais, qu'il a fait ces trois sonates et qu'il les joue en concert, et Schumann a admiré immédiatement ce jeune prodige.
Trois rhapsodies, Brahms, Liszt et Bartok, mais c'est presque une rhapsodie cette sonate, cette deuxième sonate.
Ouais, exactement. C'est à part le final qui lui est vraiment une grande œuvre avec une grande forme sonate. Les trois premiers mouvements sont une grande fantaisie. C'est, j'ai l'impression, très basé sur le modèle à la fois de Schumann et d'avant même Beethoven, avec ses sonates fantaisie au clair de lune, qui sont exactement dans la même idée, où le dernier mouvement c'est celui qui contient tout, et les mouvements d'avant sont beaucoup plus libres et rhapsodiques.
C'est ça, une rhapsodie, c'est une fantaisie tournée vers l'est.
Ouais, il y a un peu de ça. Et puis il y a aussi, j'ai l'impression, le mythe grec ancien, comme un peu Ulysse, où on raconte juste son épopée et on passe d'île en île ou de monde en monde sans avoir besoin d'avoir une vraie forme et une transition. Donc ouais, c'est l'impression ça.
Vous aussi, vous avez un prénom de mythologie grecque. Voici l'Odyssée d'Alexandre Kantorov qui continue. le début de la première rhapsodie de Johannes Brahms, Alexandre Kantorov au piano. C'est sur ce disque qui paraît ce mois-ci, en septembre, chez Bis Records, avec également Bartok et Liszt, qu'on écoutera tout à l'heure. Moi, je voudrais, alors c'est pas toujours très bien vu, mais qu'on parle sur la musique et qu'on commente ce jeu. Je lisais dans une interview, je crois que c'est dans Classica, que vous parliez de creuser le son. Qu'est-ce que ça veut dire, creuser le son?
Il y a plein de mots abstraits comme ça qu'on utilise, et c'est dur à définir. Je pense que ça vient surtout de l'idée de pas rester en surface sur son clavier, dès qu'on a tendance à se crisper, dès qu'on a tendance à, je sais pas, lever les épaules et à être tendu, on directe tout le son est aussi bloqué, en fait. Et particulièrement chez Brahms, l'idée d'aller chercher ce son vraiment profondément dans le clavier, ancré avec tout le poids du dos, en fait, c'est là où on peut vraiment, je pense, le façonner. On a beaucoup moins de moyens que la plupart des autres instruments. On peut pas le moduler une fois qu'il est joué. On peut juste accompagner la chute du son. Donc on a vraiment, je sais pas, une sorte de besoin d'avoir tellement le son dans la tête et le temps entre les notes qu'on veut, qu'ensuite on peut, même de manière entre guillemets artificielle, essayer quand même de reproduire ces sortes de naturels qu'on pourrait avoir sur d'autres instruments. Donc ouais, j'essaye de je sais pas, penser vraiment comme si on s'enfonce dans la terre et que ça débloque beaucoup, en fait, je trouve, les épaules.
Là, quand vous parlez, je crois entendre notamment votre professeur, Renal Chereshkaya, qui s'exprime après avec... Non, mais c'est pas du tout. Mais qui a beaucoup... Qui utilise ces mots-là et qui parle beaucoup notamment de ces fameuses épaules.
Oui. Elle en parle beaucoup. Et puis, elle fait vraiment extrêmement attention à surtout ne jamais lâcher le son, le garder le plus possible dans l'oreille, parce qu'elle est persuadée que rien que le fait de pouvoir écouter soi-même son son fait et force l'auditeur aussi de se faire l'écouter. Donc il y a plein de choses qu'elle parle, et vraiment elle a un aspect très très symbolique et très très porté sur la façon dont on va le toucher émotionnellement grâce au timbre, en fait.
Elle vous a conseillé sur ce disque?
Bien sûr, ouais, parce que aussi il y a plusieurs de ces pièces, que la rhapsodie, la sonate que j'ai fait pour le concours, et on a passé beaucoup de temps dessus, en fait, à je sais pas, à façonner l'interprétation, à revenir. C'est marrant parce qu'elle-même va être très changeante. Elle restera jamais avec une idée en tête. Le lendemain, elle va se dire non, j'ai une nouvelle idée. On va tout changer. Ça rend la chose très vivante et assez passionnante, du coup, parce qu'on est jamais sûr de comment, en fait, on n'a pas une interprétation en tête, on a plein d'idées, en fait.
Vous-même, Alexandre Kantorov, vous êtes changeant entre à la Criée en fin de semaine à Marseille, lundi salle Poirel à Nancy, et en janvier à la Philharmonie de Paris. Même programme, mais ça peut être vraiment très différent. L'instrument est différent aussi.
Ouais, bien sûr, l'acoustique, l'instrument. Moi, j'espère que ce sera sincèrement différent. C'est vraiment tout l'intérêt, en fait, de je sais pas, tourner avec un programme et de le jouer, parce que à la fois on grandit en le jouant, à la fois on doit s'adapter soudain, et on trouve des choses qu'on n'aurait pas pu trouver dans une autre salle ou dans un autre piano, et puis simplement l'émotion qu'on a au moment, je pense qu'il faut aussi l'accepter d'une certaine manière, et donc pas essayer de reproduire toujours un concert qui s'est bien passé, ou parce que ça pour avoir essayé, ça marchera jamais aussi bien, en fait.
Vous êtes inspiré aussi par d'autres interprètes. Là, dans Brahms, par exemple, j'imagine que vous étiez biberonné par quelques disques.
Ah, bien sûr. Alors, beaucoup de musique de chambre. J'ai une grande passion pour les trios et piano avec Souk, Starker et Kachen, qui sont sublimes. Et en général, même le son de violon de Souk marche génialement avec Brahms. Aussi, son double concerto avec Navarra, c'est une des choses que j'ai le plus écouté aussi. J'ai beaucoup écouté Kleiber dans la deuxième. Il y a un live sur YouTube qui est absolument fantastique. Il y a Furtwängler dans la première de Brahms. J'écoute pas beaucoup de piano étonnamment dans Brahms. Je sais pas. J'ose pas trop aller écouter. Je me suis vraiment pas encore penché sur les dernières pièces des intermezzos qu'on joue. Je les ai beaucoup déchiffrées, mais peut écouter. C'est vraiment pour moi tout le reste de son œuvre à laquelle je me plonge.
Allez, on quitte Brahms quelques instants et on revient sur le précédent disque, Saint-Saëns, les concertos pour piano, avec le Tapiola Sinfonietta dirigé par Jean-Jacques Kantorov, disque qui a remporté la victoire de la musique classique, c'était en début d'année. Accents orientaux de Camille Saint-Saëns, Alexandre Kantorov, Tapiola Sinfonietta, dirigé par Jean-Jacques Kantorov. Jean-Jacques Kantorov, violoniste, chef d'orchestre, qui est aussi votre père. C'est avec lui que vous avez enregistré d'ailleurs votre tout premier disque, c'était il n'y a pas si longtemps, je me souviens de la pochette rouge, il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous dites à un moment donné, je vais m'affranchir de mon père, ou c'est lui qui veut, peut-être vous dit, maintenant tu te débrouilles sans moi ou que... On ne va pas s'immiscer dans ma famille.
Non, mais c'est au contraire, aujourd'hui, c'est plutôt juste un bonheur en fait, de pouvoir se retrouver. Comme je suis beaucoup plus souvent absent, on a moins de temps pour se retrouver, pour jouer ensemble. Et au contraire, c'est des moments où on peut vraiment prendre du temps, on sera ensemble. Et puis, Saint-Saëns, c'est quelque chose qui quand même nous a pas mal unis, parce qu'il avait, j'ai entendu ça depuis que je suis tout petit, vu qu'il avait tout enregistré pour violon orchestre, avec les pièces d'orchestre. Et c'est un compositeur qu'on aime beaucoup. Genre ici, là, je veux dire, c'est dans ce moment, c'est tellement drôle, en fait, ce mélange de toutes les nationalités, de tous les voyages que Saint-Saëns a pu faire. À un moment, on dirait qu'on est... On est en Asie, au milieu des pandas roux en Chine. On a le moment où c'est russe, le moment où c'est inspiré d'Égypte. Et je sais pas, non, c'est des œuvres dans lesquelles on peut, je trouve, facilement se faire emporter et pas trop réfléchir, juste apprécier le temps ensemble.
Depuis un an, vous donnez beaucoup de concerts. D'ailleurs, vous avez été relativement épargné cet été par les annulations de concerts. Vous avez quand même donné un certain nombre. Est-ce que ça vous manque de jouer d'ailleurs avec lui, Jean-Jacques Kantorov, le violoniste avec lequel vous avez enregistré le premier
disque?
Oui,
bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est quand même remis au violon. Et a priori, on va rejouer ensemble cette année à nouveau. Voilà, moi, c'est quand même génial, parce qu'on pensait vraiment qu'au moment du premier disque, ça serait une sorte de dernière collaboration, un peu un passage où je commence et il finit. Mais heureusement que non, on va...
Et puis vous continuez, plus généralement, avec votre père ou avec d'autres, à faire de la musique de chambre. Ça a été le cas d'ailleurs dès la sortie du confinement, Salle Cortot, avec cette série de concerts autour de Beethoven. Et c'est fondamental pour vous de continuer à jouer à plusieurs.
Bien sûr, il y a une force de groupe sur scène qui est assez inarrêtable, je trouve, quand on s'entend et qu'on se fait confiance. Et puis c'est vraiment, je sais pas, un pur plaisir, une sorte de médecine après récital, après concerto, où on a souvent besoin d'être avec soi-même et tout seul, là, d'avoir l'impression de vivre la musique comme une forme simplement de liberté, de juste plaisir de partager, une sorte de salon à l'ancienne. Vraiment, j'ai pas l'impression que ça coule beaucoup plus facilement, il y a moins de questions à poser. C'est ouais, une sorte de médecine pour moi.
Alexandre Kantorov, Rhapsody in Brahms, in Bartok et in Liszt sur ce disque Beast Records. Pour finir, on va se quitter avec Liszt. Mais pourquoi avoir associé ces trois compositeurs-là?
Les trois avaient un rapport vraiment de curiosité, je trouve, avec la musique folklorique. Ils ont tous essayé de l'intégrer à leur manière au sein de leur musique. Alors Bartok, c'était beaucoup plus analytique, où il reproduisait carrément intégralement des pièces populaires. Et après, on a Brahms, qui est de manière un peu plus subtile dans ses œuvres, l'intégrer. Mais quand même, on retrouve énormément de points communs. Et entre, par exemple, Brahms et Bartok, on a le même rythme qui va les unir.
Et là, d'ailleurs, dans cette fin de Rhapsody de Liszt, on a l'impression d'entendre une danse hongroise de Brahms.
Mais totalement. En fait, c'est la folie. C'est une sorte de Xardas qui est enblayablé. C'est génial.
Merci, Alexandre Kantorov.
Merci beaucoup.
Des danses hongroises de Brahms. Ben non, c'est Liszt et c'est sa Rhapsody, sa 17e, sa dernière Rhapsody, non?
11e.
11e, pardon. Ouais, ouais. 11e Rhapsody, Alexandre Kantorov. Un disque Beast Records à écouter, absolument à réécouter. C'est tout simplement prodigieux, magnifique. Très beau disque. Merci Alexandre et à très bientôt.
À réécouter sur francemusique.fr.